On va écouter ensemble Julie nous lire la parole de Dieu dans Exode 20.
Alors, le passage biblique de ce matin tiré du livre Exode au chapitre 20, versets 1 à 11, édition Louis II. Exode, chapitre 20, versets 1 à 11. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni ceux qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Merci, Julie. En fin de semaine, dernièrement, il y avait un article, cette semaine en fait, qui est paru dans la presse, et puis il y a une dame qui s'appelle Brigitte Schulte, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce son nom, qui a écrit un bouquin sur le fait qu'on est toujours en train de courir. Et puis, il y a toutes sortes de statistiques dans ce bouquin-là qui parlent du sentiment de fatigue et d'épuisement à notre époque qui va grandissant. Son livre s'appelle, en français, disons, « Débordé »,« Overwhelmed », d'accord? Et elle fait donc cette étude, cette analyse où elle cherche à voir le... Elle sent des statistiques pour nous aider à voir quel est le sentiment de course, d'épuisement, de fatigue chez les hommes, chez les femmes, chez les pères, chez les mères, dans les familles, et les raisons qui nous amènent aussi à vivre cela. Et puis, dans son ouvrage, un des éléments intéressants qu'elle fait ressortir, c'est qu'elle dit « on vit à une époque où être occupé est devenu une vertu en soi ». On se sent important lorsqu'on est occupé. On sent qu'on est utile lorsque ça bouge, puis on est débordé. C'est une bonne réponse à donner lorsque quelqu'un vient te voir puis dit « Écoute, je suis désolé, je suis débordé, il faut que je cours à un autre meeting. » Et il y a une valeur dans ça. Et dépendamment de votre culture au travail, le milieu où vous êtes, si vous êtes dans un milieu professionnel, c'est extrêmement présent. Vous devez être quelqu'un de très occupé, très busy. Autrement, ça questionne des choses sur votre valeur, d'accord? Puis en même temps, étrangement, on vit à une époque où la culture du travail, si on parle de travail, a énormément changé. Alors, si vous pensez à nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, si on pense aux années d'après-guerre, il y a eu une culture de l'effort et du travail qui était énorme, et ces gens-là ne se reposaient que très, très peu. Ils étaient constamment industrieux, en train de produire constamment. Et puis, on voit une nouvelle génération qui arrive, qui, elle, et même des fois un autre extrême, travaille le strict minimum dans le but de ne trouver que le moment pour ses loisirs, d'accord? Et si vous parlez avec des employeurs, il y a des gens ici qui embauche du monde, puis qui, je sais, on a des conversations, vous dites, eh boy, les nouvelles générations ne sont pas tous dans le même bateau, mais c'est une autre histoire. La première question, c'est combien d'heures, combien de congés, quand est-ce que je peux ne pas être là, c'est quoi la philosophie, c'est quoi la vision, où s'en va cette entreprise-là, c'est mes conditions de travail qui sont le plus important, et donc il y a une culture du loisir qui est absolument énorme. Dans notre société, c'est énorme comme culture et ça amène toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de troubles où certains loisirs même viennent et vont défaire complètement des ménages, d'accord? Puis là, on pense à différents loisirs qui sont justement qui amènent toutes sortes de problématiques dans les relations. Mais avouons-le, notre rapport au travail, notre rapport au repos, notre rapport au loisir, c'est chaotique. C'est absolument n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Et ce matin, des 10 commandements, probablement que c'est celui sur lequel, personnellement, je suis le plus fautif, d'accord? Et donc, je ne viens pas vous apporter ce message-là en disant « voici, je suis l'exemple ». Non, je suis quelqu'un de très occupé. J'étais en train de réviser, j'étais en train de prier, puis je me suis même posé la question. Je me suis dit « si quelqu'un posait la question à ma famille, est-ce qu'il y a quelque chose comme avec le ministère qui est moins agréable? » Parce que les enfants chez nous aiment le fait qu'on est dans le ministère, on a du plaisir, on a du bon temps ensemble, tout ça. Mais oui, papa, comme nous autres, on a une famille qui roule. T'sais, ça roule chez nous. Ça bouge, ça n'arrête pas. Papa, il n'arrête jamais. Il est toujours en train de travailler, toujours en train de penser à des choses constamment, que ce soit dans mes activités. Et je partageais ça avec quelqu'un dernièrement. Dans mon cas à moi, je suis jamais... Mon mode par défaut, c'est jamais de réfléchir comment est-ce que je peux m'organiser pour me reposer. C'est comment est-ce que je peux m'organiser pour produire davantage. D'accord? Donc, c'est tout mon esprit, mon attention est toujours là. Et donc, je vous apporte pas ça ce matin comme quelqu'un qui est le modèle parfait dans ce domaine-là. Je crois en fait que lorsque je coach des gens, je suis un bien meilleur coach que je le fais pour moi-même et je les aide davantage à protéger un équilibre dans leur vie de travail que je le fais pour moi-même, d'accord? Alors, c'est vraiment avec humilité que je viens ici et avec le sentiment que Dieu me parle moi-même par rapport à ça. Mais notre rapport au temps, notre rapport au travail, notre rapport au loisir est chaotique. Et ce matin, on a ce commandement qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Pensez à ça un instant. Les 10 commandements, les Écritures nous parlent de Dieu, nous aident à découvrir qui est Dieu. Si vous aviez jamais entendu parler de Dieu, jamais entendu parler de la Bible, puis je venais te voir, puis je te disais, écoute, Dieu a donné 10 commandements à son peuple, puis un de ces commandements-là, le quatrième en fait, bien avant « tu ne tueras point », c'est « tu te reposeras ». C'est un ordre. Quand même. Intéressant, hein? Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu? Je trouve ça vraiment intéressant de songer au fait que Dieu donne l'ordre à son peuple de se reposer, de s'arrêter, de consacrer. Et le terme « sanctifier », c'est vraiment « mettre à part ». On va revenir dans une prochaine série sur cette idée de « sanctifier », de « saint ». Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour l'instant, retenez ceci. « Sanctifier un jour », c'est le « mettre à part ». Quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part de côté, consacré pour Dieu, consacré pour la gloire de Dieu, consacré à servir Dieu. Et donc, Dieu donne un commandement express à son peuple, alors qu'il les conduit dans le désert et leur donne la base, le fondement de leur relation avec lui, de ce que c'est être le peuple de Dieu. Il leur dit, voici mon quatrième ordre pour vous, mon quatrième commandement. Tu vas prendre un break, tu vas t'arrêter, tu vas te reposer. Tu vas te reposer et ça va être un jour saint, ce jour de repos-là. Ça va être un jour super important. Dans Genèse 2, alors que Dieu crée, il y a quelque chose d'étrange qui apparaît là que j'arrive pas tout à fait à saisir. Puis je vais être très transparent avec vous. Pour moi, c'est comme un langage qui est utilisé pour Dieu que j'arrive pas vraiment bien à saisir. Dieu crée en 6 jours. Et puis on lit dans Genèse 2, versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, il le consacra, il le mit à part, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Le Dieu de la Bible est le Dieu qui travaille et se repose. Comme je vous dis, ça rentre pas tout à fait dans mon esprit parce que, bon, écoutez, il faut que ce soit quand même une image. Dieu a pas vraiment comme tiré la plug. Il est parti, puis il a dit, regardez, je reviens plus tard, je suis pas disponible, je ferme la pagette. Je veux dire, quand c'est le temps de faire tourner le soleil ou les planètes, je suis pas là, vous arrangez tout seul, d'accord? Les Écritures nous disent que Dieu soutient l'univers. L'existence de l'univers est soutenue par la personne de Dieu. Dieu décide. Qui tire la plug, la plug est tirée pour tout le monde, d'accord? Et donc Dieu, c'est pas reposé dans le sens qu'il comme il était vraiment épuisé puis il est allé se reposer, ça va pas ça. Mais en même temps, ce que je conçois, c'est que Dieu a pris un temps d'arrêt. Et encore là, si vous voulez philosopher, Dieu est hors du temps, ça marche même pas mon affaire. Mais Dieu a pris un temps d'arrêt. Dieu a pris un temps d'arrêt. Pour apprécier, pour savourer sa création. Il a pris un temps d'arrêt pour s'arrêter puis dire, wow, oh, c'est beau quand même, hein? C'est quand même hot tout ça. Puis ça parle de moi, du Créateur, de la beauté, de ma bonté envers cette création-là. Dieu s'est arrêté alors qu'il était à l'œuvre, il était en train de sculpter tout ça. Puis il a juste pris un pas en arrière puis il a dit, quand même, wow. Ça va être hot ce qu'on va vivre ensemble. Il y a quelque part, c'est ça qui est fait. Et donc Dieu, le Dieu de la Bible, nous est présenté comme le Dieu qui travaille et se repose. Et je ne sais pas si vous venez à Dieu dans votre recherche de Dieu, dans votre vision de Dieu, comme tout à l'heure dans le cours, on a parlé de la colère de Dieu, on a parlé de la sévérité de Dieu, et vous avez cette image du Dieu industrieux qui est toujours en train de produire, qui est toujours en train d'exiger, qui est toujours en train de demander. Dieu est le Dieu qui travaille et se repose. Et c'est ainsi qu'il est. C'est ainsi que je veux le connaître. Et il nous a créés à son image pour que nous soyons ces êtres qui travaillent et nous reposons. Et ceci me parle de mon Dieu parce qu'il a marqué une pause. Il a apprécié littéralement le moment présent. Alors, une des choses qu'on doit apprendre de ce commandement-là, puis je vais prendre juste quelques instants sur ça, c'est que le travail est une bénédiction et le repos est une bénédiction. C'est super important. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, une nouvelle génération qui vient, puis cette vision-là, tu sais, Dieu dit dans la Genèse que ça va être à la sueur de ton front, et donc le travail, c'est pas une bénédiction, c'est un mal nécessaire. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Dieu crée Éden, place l'homme là et lui dit, voici, tu vas cultiver. Tu vas t'occuper. Avant la chute, il n'y a pas de malédiction là. Parce que Dieu est celui qui travaille six jours et se repose ensuite. L'homme a été créé à son image. Le travail, travailler de nos mains, produire, créer, organiser, structurer, c'est une bénédiction. Et pour certains d'entre vous, vous avez une mauvaise vision du travail. Vous arrivez là puis vous dites, quoi? Un jour pour se reposer? Et où la semaine de 35 heures? C'est quoi cette affaire-là? On va y venir à la semaine de 35 heures, ce sera pas long. Le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. C'est vraiment une grâce. Et si vous allez au travail, si vous vivez le travail, quel que soit votre travail, et vous dites, mais c'est quoi cette misère-là? J'ai juste hâte d'être au ciel pour plus travailler. Le travail est une bénédiction. La malédiction, c'est que ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est difficile dans nos rapports, c'est difficile de produire. Le péché est là partout, puis complique toutes les choses, c'est vrai. Mais le travail est une bénédiction. Vos enfants ont besoin de comprendre que le travail est une bénédiction. Vos enfants ont besoin de voir que c'est le fun de créer un univers sur Roblox, puis c'est hot parce que là, juste avec mes pouces, je suis en train de créer un univers. Lui, il l'a fait en 16 jours, moi, je le fais en quelques heures. Woo! Ouais, mais là, tu es en train de jouer. Viens faire la vraie vie. Viens construire une maison. Une vraie maison où tu vas t'asseoir. Viens travailler pour de vrai. C'est une grâce, une bénédiction. Tu vas construire pour de vrai. Tu vas créer pour de vrai. Le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction de Dieu. Le travail est une bénédiction de Dieu et le repos est une bénédiction. Le repos est une grâce de Dieu. Dieu donne ce commandement à Israël alors qu'ils sont en train de devenir son peuple. Ils sont en train de former une nation qui va être à part, qui va être différente. Et cette bénédiction-là dans ce peuple-là est pour tout le monde, pour toute la maison, d'accord? Tu n'es pas là pour devenir riche, te payer des serviteurs, des servantes, puis eux autres travaillent alors toute la semaine alors que toi, tu te reposes. Non, ce repos-là est une bénédiction pour toute la maison, pour l'étranger qui vient et qui s'intègre au milieu de vous. C'est une grâce que Dieu donne. Maintenant, je fais un autre commentaire aussi qui s'applique à notre époque, d'accord? La bénédiction qui est là, ce n'est pas le loisir, c'est le repos. Et je vous invite sérieusement à réfléchir comment est-ce que vous utilisez le repos. Le repos, c'est supposé d'être reposant. D'accord? Et donc, on est à une époque où on a une espèce de théologie implicite du loisir, le Dieu loisir. Et vous savez, il y a des loisirs qui ne sont pas reposants. Si tu passes 6 heures sur ton jeu vidéo, puis qu'à la fin, tu es brûlé, tu as les yeux qui te brûlent, puis tu es juste frustré d'arrêter parce qu'il est minuit et demi, tu te lèves à 6 heures, il faut que tu ailles à tes cours, il faut que tu ailles travailler le lendemain matin. C'est pas du repos! C'est une idole! Et peut-être que tu aurais dû passer 1 heure sur ton jeu vidéo, puis aller prendre une marche, respirer, bouger. Si tu as un travail sédentaire comme moi, va courir. Va faire de l'exercice. Essaye d'amener un petit peu d'oxygène dans ton cerveau où l'oxygène est tellement raréfié toute la semaine. Mais voyez-vous, dans notre vision du loisir, ce que Dieu commande à Israël ici, c'est le repos. Et donc, je veux avoir moi-même une théologie, une compréhension du loisir qui est saine, qui sert à produire le repos. Et le loisir n'est pas là pour occuper, ce n'est pas la poursuite de ma vie, le loisir. La poursuite de ma vie, c'est Dieu. C'est d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, de refléter Dieu dans toutes mes activités. Je l'ai dit il y a bien des années, mais je veux dire, quand tu te reposes, est-ce que Jésus, il est comme cool de jouer avec toi aux jeux vidéo, ou il est cool dans ton activité, ou il a juste le goût de se sauver parce que le Saint-Esprit est là, il est en toi, puis il dit, gars, non, ce film-là, tu ne devrais pas l'écouter, ça va être de la culpabilité, ça va être un paquet de problèmes, c'est en train de t'entraîner ailleurs, tu n'es pas en train de te reposer, tu es en train de pécher, c'est ça que tu es en train de faire. Est-ce que Dieu prend plaisir à ton repos? Parce que c'est censé être du repos. Et donc, plusieurs d'entre vous, vous avez énormément de ménage à faire dans votre compréhension du repos et du loisir. Quand tu as fini de te reposer, tu es censé te sentir reposé, frais et dispo. Et si tes loisirs te stressent davantage, te préoccupent tellement, c'est peut-être parce que c'est une idole dans ta vie. C'est peut-être parce que ce n'est pas une activité reposante, pas en tout. Tu devrais juste passer à quelque chose d'autre, d'accord? Et là, encore là, on est tous différents. Moi, personnellement, je charge ma batterie quand je suis tout seul. Un des beaux côtés pour moi du ministère, c'est que je passe 15 heures dans un bureau à préparer un sermon avec des livres. Oh! Je trippe, je suis tout seul, des livres, Saint-Esprit, on est complet. Je charge ma batterie, d'accord? Mais moi, je suis moins comme lorsque je suis avec les gens. J'aime tout le monde, je trippe. C'est pas que j'aime pas les gens, je trippe. J'aime ça, j'attends le dimanche matin, j'ai hâte d'être là. Quand je pars d'ici, c'est... Je vais aller faire une sieste. D'autres personnes, vous chargez la batterie avec du monde. Go! C'est cool! C'est correct! D'accord? C'est bien. Faites-le comme ça. Gaspillez pas vos temps de repos à vous isoler si c'est en étant avec des gens, puis en recevant des gens à la maison, puis à manger, puis avoir du bon temps ensemble. Le repos est une bénédiction. C'est vraiment une grâce, puis on doit apprendre à vivre ce repos-là. Et lorsque Dieu conçoit son peuple, organise son peuple, il lui accorde cette grâce-là de pouvoir vivre ce repos. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment mal à l'aise avec ça. Vous ne profitez pas de ce repos-là que Dieu nous demande de prendre. Ce n'est pas une règle de sagesse dans votre vie. Vous ne profitez pas de cela. D'autres, c'est votre Dieu. C'est votre Dieu. Et derrière ça, il y a d'autres dieux qui sont là, parce qu'en réalité, ce n'est pas simplement le repos, c'est certains loisirs qui vont être là, d'accord? Encore une fois, j'ai aucun de ces loisirs-là, vous comprenez? J'espère qu'on se comprend bien, là. Ce n'est pas de problème. Si vous venez fouiller sur mon iPhone, vous allez trouver des jeux vidéo, puis mon fils, il en a acheté un nouveau, puis il veut que j'aille m'asseoir avec lui, puis j'ai du fun. Mais quand je suis avec lui, moi, c'est OK, on fait ça ensemble, je trippe, c'est beau. Théologie du repos, comment est-ce que je conçois le repos? Un des éléments intéressants à voir par rapport à ce commandement-là, plus tard, Moïse va le déclarer à nouveau devant le peuple dans Deutéronome 5, et puis il ajoute un autre élément, comme une autre facette. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à se reposer? Non seulement parce que Dieu s'est reposé le septième jour, mais parce que Dieu a conduit Israël hors d'une situation d'esclavage où il n'y avait pas de repos. Et donc, on lit dans Deutéronome 5, 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Certains théologiens vont dire ça comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant. On va lire dans Exode que le repos représente l'œuvre de création de Dieu. Et donc, Dieu a créé pendant six jours, s'est reposé, c'est lié à la création. On est appelé à être des créateurs, nous aussi, et à nous reposer. On est appelé à travailler et à se reposer. Donc, lié à la création. Ici, dans Deutéronome, lié à la rédemption, lié au rachat. Dieu nous a libérés d'un esclavage pour nous conduire dans le repos. Dieu libère Israël d'une situation, écoutez, c'était des esclaves, là, fait 35 heures, oubliez ça, là. Vous comprenez, c'est n'importe quoi. Quoi? Tu trouves que tu es fatigué? Fais-en plus. Ah, tu trouves que c'est trop difficile? Tu vas faire un mille de plus. T'as-tu un autre mot à dire? Comprenez, les représentants syndicaux, là, pff, c'est comme n'importe quoi, là, cette affaire-là, là. Et Dieu les libère et dit, rappelez-vous, vous étiez esclaves, vous étiez malmenés, vous n'aviez pas le droit à cette vie sage, cette vie sainte. Et donc, vous allez sanctifier ça pour vous rappeler dans ce jour de repos que Dieu n'est pas comme ce maître en Égypte, que Dieu n'est pas comme ça, que Dieu est bon et que Dieu vous a libérés. Et ce jour-là va être consacré à vous reposer et à vous rappeler de cette délivrance que vous avez eue. Alors, ce jour-là était consacré à se reposer, mais c'était aussi, ailleurs dans Lévitique, Dieu va appeler ça une sainte convocation. Et donc, le jour du sabbat, le sabbat, ça veut simplement dire se reposer, d'accord? Le jour du sabbat, le jour du repos, était aussi une sainte convocation. Et donc, on pourrait dire que le sabbat avait deux vocations. Il servait à se reposer, mais à prendre un temps d'arrêt pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Mettez ça ensemble pour se reposer en Dieu. D'accord? Et donc, il y avait vraiment l'idée avec des règles assez sévères où tu n'es pas là pour travailler. Tu sais, quand tu faisais cette journée-là, je veux dire, crois-moi, tu t'étais reposé. Quand tu respectais les règles, tu t'étais reposé. Mais en même temps, c'était une sainte convocation qui servait à s'arrêter et à se tourner vers Dieu. Et en ceci, Dieu est en train de communiquer un message super important. Je vais revenir sur ça, d'accord? Mais c'est vraiment important. Dieu est en train de dire à Israël, ultimement, apprends Israël que ton repos est en moi. Ton repos est dans cette communion avec moi. Alors, retenez cette phrase-là. Quand on connaît Dieu, on ne se repose pas de Dieu. On se repose en Dieu. Quand on connaît véritablement le Créateur, le vrai Dieu, pas les dieux que vous pouvez concevoir, imaginer, qu'on vous enseignait et qui ne sont pas tels qu'il s'est révélé dans la parole de Dieu, mais quand on connaît le vrai Dieu, on ne se repose jamais de Dieu. On se repose en Dieu. Et pouvoir prendre ce temps d'arrêt pour simplement se tourner vers l'Éternel avec le peuple de Dieu dans une sainte convocation, c'est là que se trouve le véritable repos. Et donc, une partie de cette journée-là était véritablement consacrée à célébrer l'Éternel, à venir rencontrer l'Éternel. Israël avait appris à travailler fort. Israël avait appris à se reposer régulièrement. Israël avait appris à consacrer une bonne part de ce repos-là à célébrer Dieu, à se reposer en Dieu. Et ce matin, dans la salle, avec toutes les différentes cultures qui se rencontrent, les générations, puis je suis conscient, hein, quand je parle des jeunes, je parle de tendance, quand je parle des plus vieux, je parle de tendance, vous n'êtes pas nécessairement dans la tendance, les péchés de votre génération ne sont pas toujours vos péchés. D'accord? Donc, je ne suis pas en train d'induire que tous les jeunes ne sont pas travaillants ou que... Comprenez, ce n'est pas ça que je suis en train d'induire. Je parle de tendances lourdes qui sont très claires. Les anthropologues, les sociologues, les démographes étudient, mettent tout ça ensemble. C'est clair qu'il y a des tendances, d'accord? Mais dans la salle, au milieu de toutes les cultures qui se rencontrent ici, les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous travaillez fort? Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez saisi que ressembler à Dieu, c'est apprécier de travailler? Le travail est une bénédiction. Israël avait appris cela. C'était une grâce qui lui était donnée, d'accord? Est-ce que vous avez appris à vous reposer? Est-ce que ça fait partie de votre vie? Au début de l'année, on vous a lancé le défi de trouver deux domaines où vous pourriez travailler pour être plus comme Jésus. Vous vous rappelez de ça? Un des deux, pour moi, c'est ça. J'ai besoin que Dieu m'apprenne à me reposer en lui. À quelque part dans mon esprit qui ne pense pas toujours comme Dieu encore, qui a besoin d'être sanctifié, je cherche à me reposer de Dieu souvent. Et le problème avec ça, c'est que c'est dans ces moments-là où il y a le plus de lutte dans mon cœur, dans mes pensées, c'est là que je deviens le plus charnel. Alors pour moi, c'est vraiment un défi. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit ça là, pour être sympathique quand je vous ai dit que c'était une confession, d'accord? C'est un de mes plus grands défis. Je l'ai réalisé, mes moments de stress, mes moments d'anxiété, mes moments de lutte, mes moments les plus charnels, ce sont les moments où j'arrête de travailler. Puis je suis censé rentrer dans un repos régénérateur, d'accord? Alors certains d'entre vous, vous êtes comme moi. Puis vous dites, pour moi, pour que ce soit sain, il ne faut pas que j'arrête. Il y a quelque chose là, de sérieux, de très sérieux à travailler. Est-ce que vous êtes sage pour prendre du temps pour vous reposer régulièrement? Est-ce que vous consacrez du temps dans votre repos à venir célébrer Dieu pour vous reposer en lui? Est-ce que dans votre repos, il y a du temps que vous consacrez à venir rencontrer Dieu et vous apprenez à votre famille à se reposer en Dieu? Ou est-ce que c'est une corvée que de venir rencontrer Dieu? Si vraiment profondément c'est une corvée, j'oserais vous dire que vous ne connaissez pas beaucoup Dieu encore. J'oserais vous dire ça. Et c'est vous dire combien moi j'ai besoin de grandir. Maintenant, on est un dimanche matin, plutôt comme le jour du Seigneur, ceux qui se rappelaient des vieilles annonces à la télé, le jour du Seigneur. On n'est pas le samedi. Sabbat, à ma connaissance, c'est le samedi. Fait que, est-ce qu'on a fait une gaffe? On ferme ça. Samedi prochain, on se retrouve à la même heure. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là? Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui arrive pour nous chrétiens avec cette loi-là, ce commandement-là que Dieu donne? On trouve dans le Nouveau Testament quelques indices assez clairs que les chrétiens avaient commencé à célébrer à adorer Christ, à célébrer Jésus-Christ, son œuvre, le premier jour de la semaine. Le sabbat était le dernier jour de la semaine et ils avaient commencé à se réunir le premier jour de la semaine, d'accord? Et les premiers chrétiens étaient des Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. Donc, ils continuaient à célébrer le sabbat. Et le premier jour de la semaine, qui était un jour de travail pour toute la société, alors ils travaillaient. D'accord? C'est pas parce qu'eux autres, là, une poignée de quelques milliers se sont convertis. Youhou! Toute la société arrête. Il n'y a pas de dimanche. Là. Oubliez ça, ça ne marchait pas comme ici, d'accord? Mais eux allaient célébrer Dieu là. Et ce qu'on apprend à travers ça, très tôt, les pères de l'Église, les premiers écrits qu'on a après les Saintes Écritures, il y a cette idée que les chrétiens se sont mis à célébrer le jour de la résurrection de Jésus. Parce que les Écritures nous disent que le premier jour de la semaine, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et donc, les chrétiens se sont attachés, c'est devenu leur journée où ils ont voulu célébrer. Et dans les premiers pas de l'Église, Ignace écrit très tôt que les chrétiens vont consacrer le premier jour de la semaine à adorer le Seigneur, à célébrer le Seigneur Jésus, à l'élever. Alors, juste comme ça, juste petite parenthèse, vite, vite, vite. Si vous dites, on vit à une époque où le judéo-christianisme a plus sa place, ne sert plus à rien. Faites juste mettre ces deux journées-là ensemble pour le fun, d'accord? Moïse nous a donné le samedi, ça va? Puis Jésus nous a donné le dimanche, c'est bon? Les Juifs célébraient le sabbat, les chrétiens ont commencé à célébrer le dimanche. Vous avez une belle fin de semaine, merci Jésus, c'est bon? C'est comme ça. Faites des recherches, c'est de là que ça vient. Vous ne l'inventerez pas ailleurs. OK? Fait que, ne serait-ce que pour ça, aujourd'hui, si vous ne croyez pas en Jésus, vous pouvez sortir en disant « Merci Jésus ». C'est bon? Vous avez des fins de semaine. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre le sabbat, on célèbre l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Où on s'en va avec ça? Cette question-là est une vieille question qui a tracassé l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de toutes les Églises, à travers toute l'histoire de l'Église, à travers les temps. Cette question-là a tracassé l'Église et puis on est comme un peu partout sur la map là-dedans. Si vous connaissez des gens, il y en a qui vont pratiquer davantage, qui vont observer davantage le sabbat, il y en a qui vont moins le faire. Clairement, la majorité, ça va être vraiment le dimanche. Mais encore là, est-ce que le jour du Seigneur doit être vu comme un sabbat où on devrait avoir les mêmes règles? Et si un chrétien va aller travailler, il est en train de pécher. Qu'est-ce qui se passe avec cette journée-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Cette question-là a tracassé l'Église pendant des siècles. Il y a toutes sortes de questions. Et une des manières de comprendre, de répondre à cette question-là, bien, c'est de regarder la loi de l'Ancien Testament avec trois catégories. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. C'est vraiment important. C'est très éclairant, d'accord? Ça nous aide à saisir parce que finalement, si je me pose la question, si je dois pratiquer le sabbat, l'autre question que je devrais me poser, c'est est-ce que je dois pratiquer toutes les lois de l'Ancien Testament? Je veux dire, change mon dress code, moi, là, la semaine prochaine. Comprenez? Ça change complètement la barbe. On va continuer. Oubliez ça, c'est fini, d'accord? Fait, qu'est-ce qu'on fait avec l'Ancien Testament? Généralement, on va diviser les lois de l'Ancien Testament dans trois catégories. Et lorsque la prochaine fois, vous allez passer à travers le Lévitique, vous allez passer à travers toutes ces lois-là, ayez ces trois catégories-là en tête et simplement vous-même, posez-vous la question, dans quelle catégorie classerais-je cette loi? D'accord? Après la venue de Jésus, trois catégories. Les lois morales, les lois civiques ou civiles, et puis les lois cérémonielles. D'accord? Alors, les lois morales demeurent toujours. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Les lois civiques étaient du genre, qu'est-ce que tu fais si ton bœuf a écrasé le petit chaton de la voisine? Est-ce que tu dois de l'argent? Ça, c'est les lois civiques, civiles, d'accord? Et puis, il y a les lois cérémonielles. Et donc, clairement, avec la venue de Jésus, les chrétiens ont saisi rapidement que bien des lois cérémonielles étaient accomplies. Elle servait à annoncer, elle servait à nous parler de Dieu. Elle portait un message qui parlait de Dieu. L'exemple le plus flagrant, bien, c'est qu'on n'est pas tenu de sacrifier des animaux. D'accord? Le sacrifice des animaux s'est arrêté pour celui qui saisit ce que Jésus venait faire avec le sacrifice de Jésus, parce que tous ces sacrifices-là étaient une préfiguration, annonçaient un sacrifice parfait qui, celui-là, véritablement pourrait amener le pardon du péché. Ce n'était que des gestes symboliques qu'il posait par la foi en Dieu, saisissant pas exactement que le Fils de Dieu allait venir mourir sur cette croix, mais ça s'est accompli, ça. Et donc, comme c'est accompli, bien, si je retournais en arrière et je disais, il faut que j'aille sacrifier mon agneau à Pâques cette année. T'as-tu acheté ton agneau? Il faut que j'aille sacrifier mon agneau. Mais, je veux dire, je suis en train de dire que j'ai pas saisi ce que Jésus a fait. S'il faut que je le fasse pour le pardon de mes péchés, j'ai pas compris que c'est lui qui a tout fait, d'accord? Et donc, les lois cérémonielles s'accomplissent en Jésus-Christ. Et donc, avec cette catégorie-là, vous pouvez lire les Évangiles, vous pouvez lire le Nouveau Testament, vous retournez dans l'Ancien Testament, mais vous dites, « Ouais, mais qu'est-ce qui s'est accompli ici? En quoi ça préfigurait? » Vous étudiez le temps, vous étudiez tous ces sujets-là, c'est super passionnant. Vous avez des indices importants de l'inspiration des Écritures dans cela. Lorsqu'on dit que la Bible est un livre qui a été écrit par 40 auteurs sur des centaines d'années avec un message unifié, ce message-là est là, le message de la rédemption, du sacrifice de Jésus qui s'en venait, est là à travers toutes les Écritures. C'est super passionnant à étudier, d'accord? Donc, ce sont les lois cérémonielles. Alors, généralement, voici ce qu'on va dire. Loi morale, éternelle, demeure toujours. Loi civile, principe de sagesse pour voir comment ça devrait s'appliquer, d'accord? Et comme je ne suis pas, comme dans l'Ancien Testament, dans un peuple qui vit tous sous la loi de Dieu, bien des fois, la loi civile ne va pas refléter, la loi de mon pays ne va pas refléter ça. Mais moi, par mes attitudes, par mes comportements, je vais en tirer de la sagesse, d'accord? Donc, loi morale demeure, loi civile, c'est là pour apprendre de la sagesse dans mon éthique, dans ma manière de vivre avec les gens, d'accord? Et les lois cérémonielles sont accomplies en Jésus-Christ. Et donc, je vais adorer. Ça devient pour moi, quand je vais lire ça, une source d'adoration parce que ça me parle de la grandeur de Christ. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ce sabbat? Une chose simplement intéressante à noter, des 10 commandements, c'est le seul commandement qui n'est pas prescrit explicitement dans le Nouveau Testament. D'accord? Tous les autres le sont, d'une manière ou d'une autre. C'est clair avec Jésus. Si tu n'as pas le droit d'haïr quelqu'un, tu n'as pas le droit de le tuer. On s'entend? C'est juste comme plus clair encore. Tu n'as pas le droit de convoiter. Tu n'as pas le droit d'aller vers la femme de ton voisin. Tu n'as même pas le droit de la regarder pour la convoiter. C'est vraiment clair. D'accord? Mais lorsque j'arrive à celui-là, il n'est pas expressément dicté. On a des allusions où les chrétiens commençaient à avoir un jour du Seigneur, mais il n'y a pas de directive vraiment formelle qui ressemble au sabbat avec ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, je vous dirais, la première indice super important qu'on a eu, c'est la manière que Jésus est entré en relation avec le sabbat. Jésus vient, puis là, les Juifs avaient les docteurs de la loi avaient compris plein d'affaires à travers le sabbat. Ils avaient mis un paquet de règles qui en venaient à dire, en fin de compte, que si tu croisais quelqu'un qui était en train de mourir là le jour du sabbat, bien, tu devais vérifier peut-être. Écoute, tu penses-tu que tu peux t'offrir encore quelques heures? Je vais pouvoir revenir te voir. Parce que là, ça ne serait pas vraiment le bon moment que j'intervienne. Si tu peux attendre, je reviens tantôt. Ta hanche, tu ne saignes pas trop, tu te fais un petit garrot, on revient tantôt. Okay? Donc, ça devenait fou, cette affaire-là. Jésus arrive, Jésus dit, non, c'est absolument n'importe quoi. Vous n'avez pas compris c'est quoi le sabbat du tout. Vous n'avez surtout pas compris ce que ça représente. Et là, Jésus commence à guérir du monde le jour du sabbat. Oh! Non, mais il ne faut pas prendre un rendez-vous demain matin, tu leur dis où est-ce que tu vas être. Puis Jésus fait exprès, il s'en va là, tu sais. Guéri. C'est ça qu'il fait. Il veut que les gens voient ça, littéralement. Il aurait pu faire ça, tu sais, discrètement, venez me rejoindre dans la ruelle derrière. Je ne voudrais pas choquer personne, je sais que tu es mal pris, je vais être dans un autre village demain. Viens me rejoindre plus tard, puis on règle ça à sauvette. Non, 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 devant tout le monde, pouf, guéri. Pourquoi il fait ça? Dans Jean 5, versets 16 à 19, voici ce qu'on lit. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Des guérisons. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » C'est délicieux, je vous dis, il faut que vous étudiez ça. Ça nous parle tellement de la grandeur de Jésus que les Juifs vont bien comprendre, vous allez voir. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, à leurs yeux, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus dit, « Ben, regardez, la terre continue à tourner, le soleil continue à se lever. Mon Père est encore à l'œuvre. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Je suis comme mon Père. Je fais ce que mon Père fait. » Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Ailleurs, on lit dans Marc 2, 27. C'est Jésus qui parle encore. Et il dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et le Fils de l'homme, c'était un titre, on trouve ça dans le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, que Jésus utilisait pour parler de lui-même, d'accord? Celui qui s'est fait homme, qui est un fils d'homme, qui représente l'humanité. Et donc, il y a beaucoup là. Mais tout ce qu'il dit ici, ce que je veux que vous reteniez, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et donc, Jésus vient, et puis il challenge les choses que les gens prennent pour acquis sur le sabbat. Et puis il dit, vous comprenez pas bien les choses, d'une part. D'autre part, je suis maître du sabbat. Et c'est moi qui vais vous enseigner sur le sabbat. C'est quelque chose parce qu'il est en train de dire, Dieu, mon Père, a donné les 10 commandements. Moi, je suis maître du 4e commandement. Et donc, ce que Jésus va enseigner, c'est qu'il est venu non pas pour abolir la loi. Ça, c'est super important pour comprendre notre rapport au sabbat, les chrétiens. Jésus est venu non pas pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Jésus n'est pas venu pour dire la loi n'est plus bonne, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, toutes les lois de l'Ancien Testament sont là pour notre instruction. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette relation-là avec le sabbat? On va lire un autre passage, puis ça va devenir un petit peu plus clair, assez rapidement. Dans Colossiens, l'apôtre Paul enseigne, et voici ce qu'il dit. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Certains les pratiquaient, d'autres ne les pratiquaient pas. « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus-Christ. » Notre corps est en Jésus-Christ. « C'était l'ombre des choses à venir. » Voyez-vous, on a dit tout à l'heure que dans les lois cérémonielles, comme celle du sacrifice, Jésus est venu accomplir le parfait sacrifice qui fait qu'on n'a plus à sacrifier des animaux. Et si je pensais que je devais sacrifier, je penserais peut-être aussi que je devrais faire des œuvres. Mais si j'accepte que son sacrifice vient remplacer tous les sacrifices, il est suffisant pour mon salut. Donc Jésus est venu s'offrir en sacrifice, on ne pratique plus les sacrifices. Paul nous dit ici que le sabbat était l'ombre des choses à venir. Un dernier passage avant d'expliquer un peu tout ça. Dans Hébreux 4, voici ce qu'on lit. Hébreux 4, 9 à 11. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et si vous prenez le temps de lire Hébreux 4 à partir du verset 1, vous allez voir que ce repos de sabbat, c'est l'œuvre de Christ. Et donc, un chrétien qui saisit le sabbat et qui saisit ce que Christ a fait va en venir à dire que Jésus-Christ est son sabbat, est son repos. Et ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous aide à réaliser, c'est que le sabbat dans l'Ancien Testament était cet endroit où j'allais me reposer, et rencontrer Dieu. Et le chrétien apprend à aller se reposer grâce aux œuvres de Christ, parce que Christ s'est reposé de ses œuvres en ressuscitant d'entre les morts. Donc le chrétien voit en Jésus-Christ son repos, son sabbat. Tant que tu ne connais pas Jésus-Christ, tu es en train de travailler. Tu es en train d'essayer de faire des œuvres pour rencontrer Dieu, pour connaître Dieu, pour satisfaire Dieu. Tu es en train d'essayer d'arriver là, à cet endroit, possiblement, où tu vas satisfaire Dieu. Mais quand tu saisis l'œuvre que Jésus-Christ a faite, tu réalises que c'est lui qui a travaillé. Et croyez-moi, il a travaillé. Il a été testé, il a été éprouvé, il a été méprisé, il a été rejeté. Ce n'était pas de la petite bière ce qu'il est venu faire ici-bas. Et en fin de compte, il a été pendu au bois, maudit par son père. Fait pécher, c'est ça que les Écritures nous disent. Et son père a agréé son sacrifice, parfaitement. Il est ressuscité le troisième jour, et il est entré dans son repos. Maintenant, son sacrifice à lui, c'est notre repos à nous. Alors, lorsque je décide de placer ma foi en Jésus-Christ, je me repose de tout ce que j'essayais de faire pour rencontrer Dieu. Je me repose de tout ce que j'essayais de faire pour être la personne que je voudrais être en luttant avec le péché en moi constamment. Et c'est pour ça que Jésus nous invite à aller nous reposer en lui. C'est parce qu'il est notre repos, il est notre sabbat. Alors, ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves dans ton cheminement spirituel. Et si l'Esprit de Dieu a éveillé en toi le désir de connaître Dieu, peut-être que tu as commencé à lire les Écritures. Tu commences à lire les Écritures, c'est du travail. Parce qu'à un moment donné, tu détournes les regards de toi-même, tu commences à regarder à Dieu, puis tu te dis, « Bah, mais Dieu est parfait, mais comment est-ce que je vais arriver là? » Et puis ici, si tu veux être honnête dans tes rapports avec les gens autour de toi, tu parles avec ton épouse, tu parles avec tes amis, puis tu veux être gentil avec eux, il y a des exigences, ils attendent de toi que tu viennes d'une personne meilleure. La société attend de toi beaucoup de choses. Toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu te juges toi-même, t'attends de toi beaucoup de choses. Et tout ceci est extrêmement lourd. Et puis si tu commences à lire les Écritures, tu rencontres le Dieu Saint, là ça devient terrible. Ça devient terrible à porter parce que tu dis, je ne suis pas comme ça. J'arriverai pas à être comme ça. Et Dieu intervient. Son Fils vient mourir sur cette croix pour tes péchés, ressuscite d'entre les morts, et Dieu te dit, pourquoi tu t'appuies sur toi-même? Pourquoi tu essaies de construire ta vie par toi-même? Viens te reposer en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu cours par toi-même en essayant de satisfaire toutes les exigences, de te satisfaire toi-même, que tu te regardes et tu dis « Enfin, je suis une bonne personne. » Christ a accompli ça pour nous. Et donc, Dieu t'invite, c'est ça que la lettre aux Hébreux dit au début du chapitre 4, à saisir par la foi, c'est un acte de foi, saisir le sacrifice de Jésus-Christ pour dire « Lui, son œuvre a été parfaite. Lui, son œuvre a été complète. Je crois dans son sacrifice pour la purification de mes péchés. Et je vais me reposer en lui. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où dans ton cœur, profondément, tu saisis cela, tu rentres dans le sabbat. Et il y a cette tension-là dans Hébreux 4 où on est dans le sabbat puis on est appelé à persévérer pour entrer dans le sabbat. Je viens à ça dans un instant. Mais tu entres déjà dans le sabbat. Et ceux d'entre vous qui avez expérimenté ce moment, cette grâce où l'Esprit de Dieu vient éclairer tes yeux, puis tu réalises que ce n'est pas toi, mais c'est lui. Ce n'est pas ton œuvre, mais c'est lui. Ce n'est pas ta perfection, c'est sa perfection. Et tu vas juste abandonner ça, puis tu dis, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta justice. Je veux me reposer dans ton repos, je veux me reposer de ton travail, pas du mien. Je veux aller te rejoindre là, Jésus, et te pardonner de mes péchés. Il y a quelque chose dans ton âme profondément qui se transforme et il y a une liberté dans le cœur. Il y a une liberté dans le cœur qui s'installe parce que ce n'est plus moi. Moi, je sais que je ne serai jamais vraiment à la hauteur. Je sais que je vais manquer. Je sais que je vais pécher. Je sais que je vais décevoir mon épouse, mes enfants, mes amis. Je vais décevoir Dieu. Je vais me décevoir moi-même. Mais je vais toujours trouver, au moment les plus aigus de cette déception-là où je suis comme, Yannick, tu es juste un être pathétique. Puis je vais être découragé au point de dire, mais pourquoi je continuerais? Je vais pouvoir me tourner vers Jésus-Christ. Je vais dire, oui, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a été parfait. C'est lui qui m'a acquis ce repos-là. C'est lui qui m'a acquis le pardon. C'est lui qui m'a acquis la vie. C'est lui qui m'a libéré de l'esclavage de mes péchés comme il a libéré Israël de l'esclavage en Égypte. Et j'entre dans son repos. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, certains d'entre nous, on a connu cela. On l'a connu par pure bêtise. Par pure stupidité, on ne profite pas de ce repos-là suffisamment. Et à quelque part, prendre le temps de m'arrêter pour méditer sur ce que Jésus-Christ m'a acquis, prendre le temps de m'arrêter avec mon épouse, avec mes enfants, pour ouvrir les Écritures, puis aller voir ce repos-là qu'il nous offre de nos péchés, de nos luttes, de nos combats, prendre le temps d'aller dans la prière, puis juste adorer Christ, puis dire, Seigneur, mais quelle paix, mais quelle joie, mais quel repos j'ai en toi, Seigneur. Ça devient un fardeau, ça devient un devoir, ça devient une charge. Et là, je vais faire mon culte personnel. Je vais faire mes dévotions. Je vais prendre un temps avec mes enfants. Je peux faire un check. On a pris notre temps dans la Bible. OK, là, je vais aller écouter ma télésérie pour me reposer. Je m'en vais me reposer de Dieu. Comprenez-vous ce que je dis? Je m'en vais me reposer de Dieu. Parce que c'est fatigant, Dieu. C'est fatigant d'aller le rencontrer, l'adorer. Je vais aller me reposer de Dieu. Dieu, je t'ai donné ce que je te devais. Je t'ai donné la dixième de mon temps. Je t'ai donné le septième de mon temps. Je t'ai donné ce que je te devais. Maintenant, je vais aller me reposer de Dieu. C'est stupide. Vous comprenez, pour celui qui a saisi l'Évangile, c'est vraiment innocent comme raisonnement. Je suis le premier à le faire. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. C'est correct, je vous l'ai dit, les loisirs, c'est correct. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a un seul loisir sur la terre qui va te donner le repos que tu trouves dans cet endroit, dans ce moment précieux où tu es en train d'élever Christ dans ton cœur. Tu es en train de jouir de ce repos éternel dans lequel il t'a fait entrer. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, nous allons le voir face à face. Nous allons entrer dans ce sabbat éternel. Et honnêtement, c'est ça fondamentalement qui va changer, c'est qu'on va être dans sa présence, là devant lui, constamment, jouissant de ce repos, ce sabbat éternel. Alors persévérons. Il y a des moments où tu te lèves puis tu te dis, mais ça ne marche pas, ma vie chrétienne ne fonctionne pas, je ne suis pas à la hauteur. Retourne à ton repos, retourne à Christ. et persévère jusqu'à ce que tu rentres dans le repos éternel. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme chrétien avec le sabbat? Bien, on apprend. Cette loi-là devient une loi qui a été accomplie pour nous en Jésus-Christ. Et on en tire un principe de sagesse parce que d'une part, Dieu dit que 6 jours, 7 jours, tu sais, il fait reposer ça sur la création, pas simplement sur la rédemption. Et donc, il y a de la sagesse dans ça. Une grande liberté, je crois, c'est ça que je vois dans les Écritures, à savoir comment est-ce que tu prends ce repos-là. Mais pour le chrétien, notre repos est premièrement en Jésus-Christ et je veux apprendre de la sagesse de Dieu dans mon rapport au travail. Je veux apprécier travailler. Je veux apprendre de la sagesse de Dieu dans mon rapport au repos. Je veux voir comme une bénédiction le repos. J'aimerais inviter la pianiste à s'avancer. On va passer un temps de louange ensemble. Et dans quelques instants, Alexandre va venir nous conduire dans le repas du Seigneur. Et on va célébrer ça ensemble, ce repos que Christ nous a acquis. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans la salle ici qui ont un rapport vraiment sage et vraiment sain avec le travail, le repos, les loisirs, avec ce repos qu'on trouve lorsqu'on va rencontrer Dieu avec les amis, avec la famille, personnellement. Alors, je vous invite ce matin à examiner vos cœurs pour vous demander qu'est-ce que cette loi-là a à vous enseigner. Certains d'entre vous, vous avez simplement besoin de dire oui à Jésus-Christ ce matin et entrer dans ce repos-là. La parole de Dieu nous dit que celui qui vient à Jésus, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son cœur jusque dans l'éternité. Et donc, tu vas entrer dans ce repos que j'ai expérimenté personnellement, que littéralement quelques centaines de personnes ici ont expérimenté. Et Dieu t'invite à ça. Pour d'autres, vous devez vous repentir de cette bêtise, cette folie de ne pas aller rencontrer Dieu régulièrement. D'avoir élevé dans vos vies peut-être le travail comme une idole, peut-être les loisirs comme une idole. Et tout ça est chaotique et vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour vous conduire. On va prier. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Je veux élever ton nom dans mon cœur. On veut élever ton nom en assemblée ce matin parce que tu es notre repos, Seigneur. Ta loi est parfaite, ta loi est sage et tu avais de bons principes à donner à ton peuple afin qu'il se repose, qu'il soit travaillant, mais qu'il vienne et s'arrête et te rencontre, Seigneur. Ta loi est sage, mais ta loi est parfaite. Parce que ce sabbat, ce jour de repos, annonçait la venue de celui qui nous donnerait le vrai repos. De celui qui nous offrirait le véritable sabbat. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux et celles ici ce matin qui ont besoin de s'appuyer non pas sur leurs œuvres, sur leur travail, mais sur ton travail, Seigneur Jésus. Pour entrer dans ton repos, sur ton sacrifice, Seigneur, et ta fidélité, ta droiture, pour entrer dans cette grâce du repos qu'il y a en toi. Parle à leur cœur, Seigneur. C'est ton esprit qui parle. Ce n'est pas un homme, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas transformer les cœurs. C'est toi qui viens par ton esprit et qui fais entrer un homme, une femme, dans ce repos. Sois béni. Et Seigneur, que cette parole soit une parole de réprimande, de correction, pour ceux qui, comme moi, trouvent plus de plaisir souvent dans le travail qu'à se reposer en toi, qui sont industrieux, constamment en train de chercher à produire davantage comme si le sort de l'humanité reposait sur mes épaules. Ô Seigneur, apprends-moi à me reposer en toi. Et alors même que je suis dans le travail, mon cœur soit reposé en toi, Seigneur, confiant en toi. Et ceux d'entre nous qui ont ce rapport malsain avec le travail, parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes et qui trouvent beaucoup plus de plaisir dans le loisir que dans celui de servir, de se donner, de produire pour ta gloire et de se reposer vraiment en toi, chasse de leur vie cette idole de la paresse, Seigneur, de l'égoïsme. et fais d'eux des gens qui, comme toi, Jésus, regardent à chaque heure à faire ce que leur Père veut qu'ils fassent pour te ressembler, Seigneur. Amen.